Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et l'on continue de parler du djihad. Hier, vous l'avez entendu, 8 personnes ont été tuées à New York dans une attaque terroriste à la camionnette. Un suspect de 29 ans a renversé de nombreuses personnes sur une piste cyclable dans l'après-midi avant d'être blessé et interpellé par la police. Le maire de New York, Bill de Blasio, a qualifié d'acte terroriste cette action. Bonjour Romain Caillet.
Bonjour.
Vous vous intéressez depuis de nombreuses années au djihadisme. Qu'avez-vous à dire sur ce qui s'est déroulé hier à New York ?
Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas encore de communiqué de l'État islamique, donc il faut rester très prudent. Ça peut très bien être Al-Qaïda comme l'État islamique ou un individu isolé manifestement avec une orientation islamiste. Je note que les autorités américaines parlent d'attentat.
On va donc considérer effectivement qu'aujourd'hui, c'est la piste la plus plausible. S'il s'agit d'un attentat, ce que l'on sait, c'est que cet homme manifestement était un Ouzbék venu d'Ouzbékistan il y a 7 ans. Quelle est la situation en Ouzbékistan aujourd'hui? C'est un pays à large majorité musulmane.
Au-delà de ça, il y a une organisation djihadiste, le mouvement islamique en Ouzbékistan, qui a prêté allégeance à l'État islamique. En tout cas, la majorité de ces combattants qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Est-ce que c'est lié forcément à des problématiques de son pays d'origine ou à des rencontres qu'il a fait aux États-Unis? Il y a beaucoup de gens qui sont originaires d'endroits ou de régions où il y a des mouvements djihadistes. Et puis, quand ils commettent des attentats, on voit que dans leur parcours, finalement, c'est des événements liés à leur pays d'adoption, entre guillemets, qui les ont fait rentrer dans le djihadisme.
Donc ce serait plutôt une réaction à la situation américaine. En tout cas, on voit, et c'est l'une des thèses que vous développez dans le livre que vous co-signez avec Pierre Puchot, Romain Caillet, Le combat vous a été prescrit, une histoire du djihad en France. On voit que malgré les défaites de l'État islamique aujourd'hui, nous en avons probablement encore, nous aurons probablement encore affaire avec le djihadisme.
Oui, en fait, c'était prévisible dès l'instant où l'État islamique a proclamé le califat. Il n'y avait plus vraiment d'ancrage régional, mais un ancrage international, global. D'ailleurs, ils appelaient ensuite à la dissolution de toutes les organisations djihadistes. Il y avait donc une volonté de prendre la place d'Al-Qaïda. Et là, ils y sont. Maintenant, tous les attentats qui sont commis en Occident aujourd'hui, quasiment, je crois que le dernier, c'était celui d'ailleurs des frères Kouachi au nom d'Al-Qaïda au Yémen. Mais sinon, tous les attentats qu'on suivit en Occident, ils ont été revendiqués par l'État islamique. Donc maintenant, l'organisation globale, déterritorialisée, qui est en guerre totale avec l'Occident, c'est l'État islamique.
Alors, je ne vais pas vous demander de faire des prévisions, mais cela signifie qu'on pourrait avoir des actes isolés de personnes qui ne seraient pas envoyées par l'État islamique, au sens où, précisément, on a pu le voir avec les commandos des terrasses, par exemple, à Paris, mais des personnes qui décideraient de se lancer dans une action au nom de cette organisation.
Tout à fait. Maintenant, c'est surtout la menace intérieure qui est la plus dangereuse. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que maintenant l'État islamique ait les moyens d'organiser à partir de son territoire, de A à Z, un attentat majeur en envoyant des hommes, de la logistique, en mobilisant des fonds pour un attentat type 13 novembre. En revanche, il y a un appel à frapper les pays occidentaux, les pays de la coalition, et qui fait sens pour un certain nombre de djihadistes sympathisants d'État islamique qui représentent la majorité des troupes. Vous savez, grosso modo, je crois que c'est à peu près pareil dans tous les pays, sur la mouvance djihadiste avant le djihad en Syrie, vous en avez 1/10 qui est parti. Ce qui veut dire que, par exemple, vous prenez le nombre de djihadistes français, vous le multipliez par 10 et vous avez à peu près une idée du nombre de sympathisants djihadistes en France.
Ce qui veut dire beaucoup.
Oui, ce qui veut dire des milliers de personnes, clairement.
Des milliers de personnes. Et ce qui est important, puisque Romain Caillet, vous connaissez ces djihadistes, vous en avez rencontré un certain nombre, c'est d'ailleurs l'une des spécificités de votre livre, ce livre que vous signez avec Pierre Puchot. Est-ce que vous pensez que le message de l'État islamique demeure audible? Alors, à la fois sur son versant idéologique, sur son versant religieux, sur son versant en tant qu'organisation, puisque aujourd'hui c'est quand même une organisation qui est en partie défaite, et donc elle ne peut plus se présenter comme une organisation victorieuse malgré tout. Qu'est-ce qui reste de puissant dans son message auprès de ses oreilles à qui elle est destinée?
Bon, elle est forcément moins attrayante qu'il y a quelques années pour de nouveaux militants. Mais les appels à la vengeance régulièrement adressés dans les communiqués d'État islamique à leurs sympathisants, ils font sens à ceux qui soutiennent l'organisation depuis des années, dont la haine s'accroît à force qu'il y a des défaites de l'État islamique et où certains de leurs, parfois de leurs proches, meurent et donc ils ont envie de les venger. Et donc c'est dans ce sens-là que la propagande, elle continue à toucher un certain nombre de militants et elle va les pousser dans les mois, les années qui viennent à commettre des attentats. Et puis, on ne peut pas écarter le fait que l'État islamique soit reprenne du terrain ailleurs, soit sur le long terme, là on est quand même dans plusieurs années
dans de la prospective.
Avant un retour de l'État islamique. Et là, il revient avec son fameux slogan « Bahriya, il restera », qui à ce moment-là fera d'autant plus sens.
Est-ce qu'il ne serait pas envisageable, je vais essayer quand même de trouver une lueur d'espoir, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une prise de conscience que ça n'est peut-être pas la bonne solution, qu'il peut y avoir d'autres tentatives, des tentatives pacifiques, ou bien que la stratégie suivie par l'État islamique est une stratégie qui ne fonctionne pas?
Si, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative islamiste crédible, réussie dans le monde arabo, surtout le monde arabe. Le monde arabo-musulman, c'est un peu plus compliqué. Mais parce que en dehors du monde arabe, il y a la Turquie. Alors la Turquie, c'est plus du tout une référence de modèle. Et surtout, ce qu'on avant le changement d'image d'Erdogan, notamment en Occident, une des critiques qu'il y avait, c'était contre Erdogan, c'est le fait de dire oui, c'est vrai, les Turcs, c'est des islamistes modérés, mais ils ont encore jamais rendu le pouvoir. Donc l'alternance. Le seul exemple qu'on a, c'est Ennahda, le parti politique islamiste tunisien qui a eu le pouvoir et qui l'a rendu dans le cas d'une alternance. Bon. Même s'il y a eu quand même une instabilité du pays qui fait que ça n'a pas été quelque chose d'idéal. Moins valorisant pour les islamistes locaux, mais il y a le modèle marocain où il y a des islamistes modérés qui gèrent une partie du pouvoir Maroc, plus ou moins, qui ont plus ou moins la main sur la petite administration, les choses sérieuses qui sont laissées au palais. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'alternative, parce que qu'est-ce que c'est que le djihadisme finalement? C'est le fait de privilégier la lutte armée comme mode d'action politique. Alors il y aura toujours une minorité de djihadistes.
Mais c'est une fin en soi la lutte armée ou c'est un moyen? Parce que sinon, si on va en dehors du monde arabe, si on va en dehors du monde sunnite, il y a quand même l'Iran, je crois, qui est république islamique et qui, elle, semble aujourd'hui solide en tant que
république. Il y aura toujours des djihadistes ultra convaincus qui choisiront que c'est le djihad et pas autre chose. Mais il y en a beaucoup qui vont adhérer au djihadisme parce qu'ils vont dire on a essayé tel, ça n'a pas marché. Les islamistes, c'est-à-dire ce qu'on dit avec Pierre Puchot, c'est ce qu'on dit dans l'introduction, c'est que regardez par exemple les frères musulmans en Égypte, ils ont entre guillemets joué le jeu de la démocratie et puis ils ont cru que parce qu'ils étaient élus, ils étaient protégés contre un coup d'État ou quoi que ce soit. Et alors en même temps, ça c'était en l'été 2013 et puis après on a eu l'irruption de l'État islamique donc qui a montré que finalement la façon de mettre en avant, faire avancer la cause islamiste, c'était pas d'être pondéré, d'être pragmatique, mais c'était d'utiliser l'ultraviolence.
Sur l'Iran, vous n'avez pas répondu. Est-ce que cela signifie que la fracture entre sunnites et chiites, elle est plus importante encore, ou en tout cas, elle est impossible à combler aujourd'hui, que la fracture entre ces personnes qui se considèrent comme des combattants de l'islam et l'Occident?
Non, il y a deux choses sur l'Iran. Il y a le clivage sunnite-chiite qui, dans le Moyen-Orient, est en train de devenir encore plus fort que le clivage israélien arabe-israélien.
Encore plus fort.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est pas rien quand même.
Non, mais d'accord. Mais par exemple, les sunnites, évidemment, il y a des sunnites syriens nationalistes, mais les sunnites syriens de la révolution syrienne, ils voient bien que par exemple, ceux qui les écrasent ou qui les bombardent, c'est pas les soldats, c'est pas l'armée israélienne. Bon, c'est le régime soutenu par l'Iran et les miliciens chiites afghans. Ou de toute obédience, et aussi, évidemment, le Hezbollah. Mais maintenant, Pour ce qui est de la révolution iranienne, effectivement, ça a été le schisme iranien, il a séduit beaucoup de sunnites. Pourquoi ? Parce que c'était un islamisme qui marche. C'est-à-dire un islamisme politique qui était arrivé au pouvoir et qui avait réussi. Il y a eu le printemps arabe où on a cru que, ça je reprends l'expression de Patrick Haini, quand l'islamisme qui marche change de camp. Mais bon, là on voit que enfin, du point de vue des islamistes, ça s'avère être un échec dans aussi bien pour les modérés, les frères musulmans, que au final pour les djihadistes.
Mais alors l'une des spécificités de votre livre et même de votre approche, Romain Caillet, c'est de considérer finalement que le djihad doit se comprendre sur une période longue. Cette période longue, elle commence notamment avec le GIA qui a organisé en France des attentats en 1995. On se souvient par exemple de la manière dont il a ensanglanté un certain nombre de lieux, une station de RER, un attentat sur un marché parisien, devant une école juive aussi. C'était déjà une manière donc de prouver que les juifs étaient une cible en soi. Il n'a pas fallu attendre le crime de Mohamed Merah pour s'en rendre compte. Mais au-delà de ça, vous considérez donc qu'il y a un phénomène qui doit se saisir sur une durée plus longue que celle de la naissance de l'État islamique ou du 11 septembre 2001. Est-ce que ça signifie qu'après avoir eu le GIA, après avoir eu Al-Qaïda et l'État islamique, on risque d'avoir une quatrième organisation ?
Bah, c'est vrai que, par exemple, moi je vois, par exemple, quand on parle de fin de l'État islamique, je vois que, par exemple, deux issues possibles. Soit, effectivement, il y a un certain nombre de nouvelles formes d'islamisme politique plus crédible qui donne des espoirs à un certain nombre de gens qui sont pas les militants de premier ordre de l'État islamique, ou alors un groupe encore plus radical qui émerge. C'est vrai que ça peut paraître complètement fou, mais
plus radical encore que l'État islamique.
Oui, ça peut paraître fou, mais si on avait discuté il y a à peu près 5 ans, on avait dit il va y avoir un groupe encore plus radical qu'Al-Qaïda qui va émerger, on a dit, mais non, c'est pas possible, de quoi ? Et on a eu l'État islamique.
Oui, vous avez raison sur ce point, mais l'une des spécificités de l'État islamique par rapport à Al-Qaïda, c'est d'être millénariste. C'est-à-dire de considérer que la fin des temps est à la fois incontournable et même souhaitable, qu'il faut la hâter. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette présentation de l'État islamique. Et du coup, dans la stratégie de l'État islamique, il n'y a pas de stratégie d'alliance, il n'y a pas de volonté de faire de la politique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'est pas envisageable de négocier avec l'État islamique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus radical encore que le millénarisme ?
Bon, déjà, je ne pense pas que ce soit forcément spécifiquement lié à l'État islamique. Omar Hormsen, donc, qui est proche d'Al-Qaïda, qui est aussi interviewé dans ce livre, a aussi développé toute une thématique sur la question de la fin des temps qui, selon les textes scripturaires de la tradition musulmane, doit se dérouler au Levant. De manière même générale, ça, on en parle des fois, je discute avec des gens qui travaillent sur la déradicalisation. Vous voyez que, par exemple, un élément de radicalisation, c'est le fait de croire que la fin des temps est proche. Alors, c'est quelque chose de lié plutôt au fondamentalisme. De manière générale, grosse partie des islamistes, des salafistes, pensent que nous sommes arrivés à une époque proche de la fin des temps. Il y a aussi beaucoup d'évangélistes américains qui le pensent.
Non,
c'est donc,
ce n'est
pas quelque chose de lié à l'État islamique.
C'est
la
une croyance qui est
entre
répandue.
Al-Qaïda et l'État islamique, c'est leur projet de mettre en place tout de suite un État.
C'est une croyance, vous avez effectivement raison, c'est une croyance, celle donc de la fin des temps, c'est une croyance qui est répandue dans différentes religions. Elle existe aussi dans le judaïsme. Un groupe terroriste avait essayé de faire sauter les mosquées du Mont du Temple pour hâter la fin des temps. Un groupe juif, donc il y a tout cela, même si ce groupe est ultra, ultra minoritaire parmi les orthodoxes israéliens, mais la différence entre ces différents groupes qui peuvent envisager éventuellement la fin des temps sur le plan intellectuel ou sur le plan religieux, c'est que l'État islamique n'avait même pas véritablement de stratégie de construction d'État, manière d'envisager par exemple des alliances politiques. C'était quand même assez flagrant de voir qu'ils se sont employés finalement à faire la guerre avec tous, alors que ça n'était pas nécessairement opportun. l'Al-Qaïda, on pouvait éventuellement voir une manière, par exemple, de vouloir s'emparer, par exemple, du pouvoir en Arabie Saoudite, d'avoir des velléités, donc de faire de la politique.
Alors, sur le fait de vouloir mettre en place un État, non, je suis pas tout à fait d'accord. L'État islamique a essayé de mettre en place des infrastructures. Il voyait ça comme une crédibilité. Mettre en avant une certaine crédibilité. Et d'ailleurs, la coalition a cherché à vraiment à détruire ces infrastructures pour bien montrer, pour défaire en quelque sorte la propagande de l'État islamique sur le terrain. Maintenant, concernant la diplomatie, c'est vrai que Al-Qaïda est plus complexe dans sa logique et est capable de négocier avec d'autres acteurs, ce qui n'était pas le cas d'État islamique. C'est aussi une des raisons de ses défaites, c'est qu'il a été suffisamment téméraire pour déclarer la guerre au monde entier.
Est-ce qu'aujourd'hui, Al-Qaïda a la possibilité de poursuivre ce combat-là, le djihad, Romain Caillet ?
Oui, bien sûr. Mais alors, il y a deux petites nuances. La première, c'est que c'était paradoxal parce qu'au départ, l'État islamique était une forme de djihadisme très local, très régionalisé, et Al-Qaïda était déterritorialisé. On arrive à l'inverse. Maintenant, l'État islamique a pris la place d'Al-Qaïda en quelque sorte, comme organisation déterritorialisée, globalisée, et de l'autre, toutes les branches régionales d'Al-Qaïda qui sont de plus en plus dans une logique de régionalisation.
Où ça, par exemple ?
Partout, c'est-à-dire au Yémen, Aqaba se faisait appeler les fils du Hadramaut. En Syrie, tout le monde connaît l'histoire de Jabhat al-Nusra qui a changé de nom pour Jabhat al-Shem, puis Hayat Tahrir al-Shem, à tel point que ça a été critiqué par un certain nombre de théologiens proches d'Al-Qaïda, qui ont dit au départ, vous avez dit que c'était juste un changement de nom, mais qu'il n'y avait pas de changement d'allégeance, et finalement, vous l'avez vraiment fait.
On se souvient du marketing terroriste, effectivement, du changement de nom.
À tel point que récemment, il y a eu une vidéo de Zawahiri où il a critiqué Jolani, donc le chef de Hayat Tahrir al-Shem, l'ex-branche d'Al-Qaïda, en Syrie, puis c'est passé inaperçu, mais il y a quelques jours, il y a eu une initiative d'ouléma djihadiste proche d'Al-Qaïda pour régler les différends entre les groupes armés dans la région d'Idlib, et parmi les groupes qui étaient mentionnés, il y avait Hayat Tahrir al-Shem, donc l'ex-branche d'Al-Qaïda, Jaych al-Ahrar, donc les ex-Ahrar al-Shem, et les frères liés à l'organisation Al-Qaïda au Levant.
On est un peu perdu là, dans ces différentes étiquettes.
Et au Sahel, et ben figurez-vous que Ansar al-Din, Akmi, donc l'ex-branche d'Al-Qaïda au Sahel, El Mourabitoun et les brigades du Massina se sont réunis dans un nouveau groupe, Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin, qui se veut n'être plus lié à Al-Qaïda. Donc trois exemples de cas où les ex-branches d'Al-Qaïda se poussent vers une logique nationale. Et j'en arrive donc au deuxième point. Et récemment, un chercheur avait dit que l'État islamique sera de plus en plus une affaire occidentale. En partie, il n'a pas tort, parce que les occidentaux, les djihadistes occidentaux, ça ne les intéresse pas, les logiques nationales. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un groupe internationaliste, global, qui se joue des frontières. Donc pour toutes ces raisons, certes, Al-Qaïda peut profiter de l'affaiblissement de l'État islamique et du fait que la coalition ou les occidentaux se focalisent sur l'État islamique, mais il y a une dynamique qui fait que l'État islamique est une affaire globale.
On va continuer à évoquer cette dynamique et puis on va évoquer les djihadistes français que vous avez étudiés, que vous connaissez, que vous avez rencontré, Romain Caillet. Et vous évoquez leur histoire avec Pierre Puchaud dans Le Combat vous a été prescrit, une histoire du djihad en France publiée chez Stock. On va s'intéresser notamment à l'un d'entre eux, Mohamed Merah, puisque le procès du frère de Mohamed Merah se poursuit.